Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va? Comment ça va les copains? Est-ce que vous avez passé une bonne journée d'expectation du nom du Premier ministre? Qui ce sera pas? Oh là là, terrible, le suspense est total. La France est pendue à la décision d'Emmanuel Macron de nommer tout ça pour le cornu, hein, parce qu'à la fin on va se retrouver avec le cornu, je vous préviens. Hein. On va finir avec le cornu. Là on rigole, mais... Charles de Courson, Premier ministre. Ouais, non. Non, ça n'arrivera pas, non. Pas de dissolution du coup. Non, pas de dissolution depuis que hier, l'Élysée a annoncé qu'un nouveau Premier ministre serait nommé tout prochainement. Fin de citation. Dès lors, l'Élysée exclut l'hypothèse d'une dissolution rapide. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de dissolution. Ça veut dire qu'il n'y aura pas tout de suite de dissolution. Abonnez-vous. Abonnez-vous, parce qu'on va passer des mois d'octobre-novembre. On va en faire des streams. Hein. Vous la sentez, la dissolution, pendant l'examen du budget au Parlement? Avoue que t'as été appelé par le président de la République. Ouais, je sais pas, il y a un numéro masqué qui essaie de m'appeler depuis hier. Je réponds pas, moi. Non, mais je réponds pas. Ils ont qu'à m'envoyer un mail sur mon mail pro. Je réponds pas. Le président peut-il se nommer Premier ministre? Non. Quel article de la Constitution l'interdirait? C'est pas, t'as pas besoin d'un article spécifique qui l'interdit. Le président de la République occupe une fonction élective qui le rend mécaniquement incompatible avec le fait d'occuper une autre fonction. Ouais, c'est tout. Je réponds jamais quand c'est masqué. Non, non, moi non plus, je réponds jamais quand c'est masqué. Petite synchro de la dissolution pour les municipales. Tu penses qu'on pourrait faire les deux élections en même temps? Je suis pas sûr. Il peut pas faire un vote de confiance, le président, qu'on voit? Ah non, hors de question. Le président de la République ne saurait en aucun cas être responsable devant l'Assemblée nationale. Certainement pas. Pour la simple et bonne raison que l'Assemblée nationale et le président de la République sont issus de la même légitimité que celle du suffrage universel direct. Séparation des pouvoirs, mais pas de hiérarchie entre les deux. J'ai une grosse envie de tailler la bavette avec Thibaut Mullier dans ces moments. Ah mais Thibaut Mullier, tous les jours. Tous les jours, j'ai envie de discuter avec lui. Professeur de droit constitutionnel, Thibaut Mullier, vous l'avez déjà vu sur le plateau de Baxit. Est-ce que Gabriel Attal t'a déjà appelé pour que tu sois le négociateur? Gabriel Attal, il est en train de s'émanciper de Macron de manière vénère. Gabriel Attal, en 24 heures, il a dit, il faut la nomination d'un négociateur avant la nomination d'un Premier ministre, de manière à faire le point avec les partis politiques et les groupes politiques, etc. Donc déjà, Gabriel Attal ne dit pas la même chose que Emmanuel Macron. Puis, quelques heures plus tard, Gabriel Attal qui déclare, je ne sais pas si vous avez suivi, Gabriel Attal a déclaré qu'Emmanuel Macron devait apprendre à partager le pouvoir. Oh putain, il se permet des trucs, Gabriel Attal. Plutôt smart. Je suis d'accord. Plutôt smart, le Gabriel Attal, sur ce coup-là. Gabriel Attal, il est en train de viser 2027, il est en train de s'émanciper de la tutelle d'Emmanuel Macron, et il hésite plus dans les médias, ouvertement à donner des conseils à Macron, à dire ce qu'il devrait faire, etc. Quand tu es président du groupe présidentiel, c'est pas évident comme position. Mais on savait déjà que Gabriel Attal et Emmanuel Macron entretiennent des relations glaciales depuis que Macron lui a dissous sa mère à Gabriel Attal. C'est vrai que l'ambiance entre les deux n'était pas au beau fixe. Et ben là, visiblement, ça se rafraîchit encore plus. Barnier n'avait-il pas été choisi justement pour ce rôle de négociateur lors de son passage à Matignon? Si, mais Barnier, il a été choisi pour devenir Premier ministre. Là, ce que proposait Gabriel Attal, c'était la nomination d'un négociateur avant la nomination d'un Premier ministre. Donc, non, Gabriel Attal, intéressant. Intéressant. Gabriel Attal, à mon avis, il est en train de sentir que c'est son moment, que, il faut pas rester dans la roue de Macron trop longtemps. Il faut apporter quelque chose de frais, de novateur aux électeurs pour leur proposer une offre en 2027. Moi, je le vois bien. Je le vois bien, Gabriel Attal, être en train de prépositionner une candidature. Est-ce que les partis sont vraiment prêts à négocier? Les partis du bloc central, oui. Les partis de gauche, oui, à l'exception de la France insoumise qui l'a exclue. Est-ce que ça fait une majorité? Je suis pas sûr. Mais il y en a qui se sont dit prêts à entrer en discussion. Attendez, voilà, dégage. Hop. Est-ce que Gabriel Attal et Édouard Philippe ne se feraient pas de l'ombre l'un l'autre? Si, 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 si. Ah, si, si, bah, si, clairement. Non, mais de toute façon, je veux dire, le... c'est bouché la perspective pour 2027 dans le bloc central. Il y a beaucoup de monde qui est candidat. Tout ça pour un seul poste, le poste de candidat officiel, si je puis dire. Il y aura peut-être un candidat officiel et un candidat dissident. Ça, c'est possible. Mais. Sachant qu'ils ont des lignes rouges en opposition totale, retraite, fiscalité, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, mais. C'est chaud, mais c'est pas plus chaud qu'entre le SPD et la CDU, hein, en Allemagne. Donc, moi j'en sais rien, on verra bien s'ils réussissent à se mettre d'accord. Il y a un long article dans Le Monde, que je vais pas lire en stream, hein, de Anne Chemin, qui s'appelle L'impossible deuil de la majorité absolue pour le monde politique français. Je vais le lire ce soir tranquillement dans mon lit. Mais à mon avis, elle décortique effectivement cette problématique et cette culture, cette absence de culture du compromis dans une classe politique qui est obnubilée par l'élection présidentielle et le côté blitzkrieg de la victoire écrasante. Et du fait majoritaire. De Villepin, c'est pas un candidat legit pour le rôle de Premier ministre? Non. Je suis désolé, Dominique de Villepin, c'est une personnalité médiatique et c'est à peu près tout. Dominique de Villepin, il n'a pas de troupe à l'Assemblée nationale. Dominique de Villepin, il ne peut pas coaliser sur son nom un grand nombre de députés à même de peser dans des négociations. Dominique de Villepin, c'est l'archétype de la candidature à la présidentielle. Pas de la candidature au poste de Premier ministre. Pourquoi le nom de Lucie Castet ne revient pas sur la table du côté de la gauche? Parce que Lucie Castet, elle incarne ce qu'a été l'union de la gauche en 2024, mais pas en 2025. Vous avez remarqué que les choses ont bougé quand même par rapport à l'année dernière et le nouveau Front populaire. Les socialistes veulent plus entendre parler des insoumis et les insoumis veulent plus entendre parler des socialistes. Lucie Castet, elle incarne la réunion des deux. Feu la réunion des deux. Je qui occupe la fonction de Premier ministre en attendant l'élection du prochain Premier ministre. Ce n'est pas une élection au Premier ministre, c'est une nomination. C'est l'ancien Premier ministre qui continue à être Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. Donc François Bayrou, à l'heure qu'il est, il est rue de Varennes, à Matignon. Alors il est démissionnaire, donc il n'a plus grand-chose à faire. Hein. Mais il est toujours Premier ministre. Penses-tu qu'en cas de dissolution, les partis de gauche seront de nouveau forcés à s'entendre par le contexte et faire une NUPES NFP nouvelle édition? Bah. Qu'est-ce qui force les partis de gauche à se mettre ensemble? C'est le cas en 2024. Hein. C'est la menace de l'extrême droite au pouvoir. Est-ce que la menace de l'extrême droite au pouvoir, elle est toujours forte aujourd'hui? Oui. Le RN renforce sa position et progresse dans les sondages et a de fortes chances de gagner encore en député à la prochaine élection. Donc c'est dans l'intérêt, déjà c'est dans l'intérêt mutuel des partis de gauche de s'unir, mais c'est aussi dans l'intérêt du pays puisque ça empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais alors, pour répondre à ta question, est-ce que demain, s'il y avait une dissolution, il y aurait une alliance entre les insoumis et les socialistes? Moi, j'y crois pas. Compte tenu des positions des deux, qui ont été exprimées ces derniers jours et ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'ils se sont éloignés plus que jamais, quoi. Du coup, il y aurait plutôt deux unions de la gauche. Il y aurait probablement une union qui rassemblerait le Parti socialiste, les écologistes et les communistes, et les insoumis de leur côté. La Hollandie est de retour, ça clarifie au moins le positionnement du PS. La Hollandie n'est pas de retour, elle s'est cassée la gueule au Congrès. Elle est plutôt sur le déclin, la Hollandie. Si Sébastien Lecornu est le nouveau Premier ministre, quelle sera la prochaine occasion pour l'Assemblée de le virer? Eh bah, le budget. Si d'aventure Sébastien Lecornu engage la responsabilité du gouvernement sur un 49-3. Ou alors une motion de censure est déposée d'ici là. Est-ce qu'on pourrait avoir le NFP sans LFI? Bah ça s'appellerait pas le NFP. Ce serait une union de la gauche. Mais ce ne serait pas l'union de la gauche. On rappelle que c'est le PS qui a fait un meilleur score aux dernières élections. Ouais, sauf que les dernières élections, c'était les européennes, et c'est une élection au scrutin proportionnel. Les élections législatives ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, penses-tu qu'un attrait des électeurs pour Bruno Retailleau pourrait morceler les votes du RN? Ça, c'est une hypothèse, effectivement. Alors, en fait, pas dans l'hypothèse d'une dissolution, mais dans l'hypothèse d'une présidentielle, c'est possible. Bruno Retailleau, c'est la nouvelle révélation de la droite. Après des décennies de carrière politique dans l'ombre, Bruno Retailleau est en train de briller de mille feux à droite. Il a pris la présidence du parti Les Républicains et il a redressé le parti après une année particulièrement difficile qui a suivi le départ d'Éric Ciotti, etc. Bruno Retailleau, c'est la nouvelle star à droite. Il pourrait être amené à faire un bon score à des élections présidentielles auquel il ferait face à une Marine Le Pen démonétisée en partie auprès d'un certain électorat. Mais dans le cadre d'une dissolution, je ne suis pas persuadé que les Républicains feraient un score mirobolant. Selon toi, à quel point un scrutin des législatives à la proportionnelle changerait la composition de l'Assemblée? Ça dépend du mode de scrutin proportionnel que tu choisis. Il y a le journal Contexte qui a fait un article le journal Contexte a fait un article, ah merde, pardon, excusez-moi, dans lequel ils font les hypothèses de différentes élections proportionnelles avec la proportion de ce que donnerait l'Assemblée nationale en fonction de la proportionnelle qu'on applique. Il y a plusieurs types de proportionnelles. Et en fonction de quel résultat on se base, est-ce qu'on prend les résultats des législatives 2024 ou les résultats des européennes 2024? Donc tu vois. Si on se base sur les européennes et qu'on fait une proportionnelle intégrale, le Parti socialiste serait le premier parti à gauche avec 91 députés, les insoumis seraient derrière avec 65 députés, les écologistes seraient encore derrière avec 36 députés, les macronistes se retrouveraient avec 96 députés, les républicains 47, donc les républicains ça changerait pas beaucoup. Par contre, le RN serait à 200 députés. Et Reconquête aurait 36 députés aussi. Et Reconquête, ils ont fait un bon score aux européennes. Qui y croit au PS devant LFI sérieusement? Bah les électeurs. Bah c'est pas moi qui ont décidé de mettre le PS devant LFI, c'est les électeurs. T'étais pas là pour les européennes? T'as raté l'épisode? Et ensuite, t'as d'autres modalités de proportionnelles qui existent, avec des scrutins par département et des scrutins régionaux. Je vous mets le lien de l'article dans le chat. Voilà. Si vous voulez aller jouer un petit peu avec le simulateur de contexte, ils ont fait le taf de faire des projections pour voir à quoi ça ressemblerait. Faire barrage au RN, c'est un déni de démocratie. Il suffit de regarder ce tableau, le peuple a voté. Mais faire barrage, c'est voter. Donc, quand le peuple vote, il vote comme il veut. S'il a envie de voter par barrage, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il est possible d'avoir un Premier ministre dès ce soir? Oui. Ouais, moi d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que l'Élysée annonce rapidement un nom. Je sais pas qui, hein, mais à mon avis, le cornu. Ouais, je pense que ça va finir avec le cornu. C'est en s'appuyant sur les candidats suite au triangulaire, donc c'est faussé un peu. Mais c'est pas faussé. Pourquoi vous voulez que ce soit faussé? C'est pas faussé. Une triangulaire, c'est les règles électorales qui s'appliquent. Le maintien au second tour des candidats qui ont plus de 12,5% des inscrits au premier tour. C'est pas, je veux dire, y a pas de trucage. Ne penses-tu pas que qui que soit le Premier ministre, il tire un peu une balle dans la suite de sa carrière? Bah oui, mais vous savez, tout le monde ne pense pas qu'à sa carrière. Il y a des gens qui aspirent à gouverner dans des moments difficiles. Vous savez, si vous attendez que les conditions soient idéales pour faire les choses, vous pouvez attendre longtemps, hein. Il y a des gens qui ont attendu une vie entière. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ont eu des idées, alors ça, ils en ont eu, ça c'est vrai. Ils ont eu beaucoup d'idées sur ce qu'il aurait fallu faire toute leur vie. Ils ont fait des tweets et tout, ouais. Mais ils n'ont jamais appliqué quoi que ce soit. Parce que toute leur vie, ils ont attendu. Bah, y a des gens qui veulent éviter ça. Bayrou? Ah bah Bayrou, il a gouverné, hein. Bayrou, il a gouverné. Alors, il a participé à l'exécutif gouvernemental dès 2017 et ensuite il a fait partie des proches du président de la République. Donc François Bayrou n'est pas totalement étranger au pouvoir. Mais en 2024-2025, en 2025, pardon, François Bayrou, il a été Premier ministre. Hein. Il a pu appliquer ses idées. C'est con pour lui, l'Assemblée nationale n'était pas giga chaude. Mais... À quelle heure est-ce que Macron va s'exprimer ? Je pense pas que Macron va s'exprimer. Je suis pas sûr qu'il y aura une prise de parole du président de la République, ni ce soir, ni demain. J'en suis pas persuadé. Il va falloir à un moment que le président de la République s'exprime, je suis d'accord. Il va falloir qu'il fasse une conférence de presse. Je sais pas, une interview télévisée. Il faut qu'il vienne dans l'émission Backseat. Il va falloir qu'à un moment, il parle. Mais pas forcément tout de suite. Je viens de voir un homme très sexy sur Combini tout à l'heure. Ouais, il y a la vidéo de Combini qui est sortie. Attendez, faut que je vous montre. Ce matin, j'étais dans les locaux de Combini. Je me suis levé tôt et tout, rien que pour vous. Hein. Regardez.
J'ai rien compris à ce qui se passe avec notre Premier ministre. Pourquoi Macron ne démissionne pas? On peut rester combien de temps sans Premier ministre? Si vous êtes un peu perdu avec la chute du gouvernement Bayrou, je réponds à toutes vos questions. J'ai rien compris à ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement? Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Et le Premier ministre, il a un patron au-dessus de lui, c'est l'Assemblée nationale. Et hier, le patron a renvoyé le Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi Macron ne démissionne pas? Macron n'est pas obligé de démissionner. La démission du président de la République, c'est une décision personnelle qui est prise par le président s'il estime que son heure est venue et qu'il est préférable pour le pays qu'il parte. Pour l'instant, Emmanuel Macron a d'autres options. Il peut négocier, tenter la coalition avec d'autres groupes de l'Assemblée nationale, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, donc... On n'est pas encore au stade de la démission qui s'impose du président de la République et on a une échéance qui arrive, mine de rien, assez vite, qui est 2027, la fin de son mandat. Quel intérêt pour Bayrou de s'être mis en danger via ce vote de confiance? C'était quoi le but derrière ça? Pourquoi il a voulu faire ça? Probablement parce qu'il a voulu anticiper ce qui est arrivé à Michel Barnier l'année dernière, c'est-à-dire que Michel Barnier est tombé sur un vote de censure au moment de l'examen du budget, donc au pire moment. François Bayrou a voulu anticiper une décision inéluctable de sa propre chute au moment du budget. Comment et combien de temps peut-on gouverner la France sans Premier ministre? La France sans Premier ministre continue à tourner. L'administration continue à administrer. Les enseignants continuent à accueillir les élèves dans les classes, même quand il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale. Le gouvernement, ça sert à diriger. Combien de temps ça peut durer? Ça peut durer longtemps. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de cap, il n'y a pas de décision claire qui est prise et ça peut créer de l'insatisfaction, voire ça peut créer des troubles économiques assez importants, économiques et sociaux. Qui gouverne la France sans Premier ministre? En fait, il n'y a pas d'absence de Premier ministre. Le Premier ministre reste en poste jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. On appelle ça un Premier ministre démissionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il expédie les affaires courantes, comme on dit. Il fait pas grand-chose, en fait. Il fait de l'administration. Il continue à faire fonctionner l'administration française, mais sans prise d'initiative, parce qu'il n'a plus les moyens politiques de prendre des initiatives. Comment éviter le cercle infernal de Macron qui nomme un Premier ministre, le Premier ministre qui n'arrive pas à gouverner, Macron qui doit à nouveau nommer un Premier ministre? Ce cercle infernal, c'est celui de l'instabilité ministérielle, comme on dit, et ça se règle par une dissolution. En fait, c'est ce qu'on appelle le retour au peuple. C'est au peuple de solutionner le problème en envoyant à l'Assemblée nationale une majorité.
C'est pas vrai, ça. C'est pas écrit du tout que le peuple va solutionner quoi que ce soit. Vu comment il est divisé, le peuple.
Majorité, quelle qu'elle soit, ou en tout cas une coalition suffisamment stable pour gouverner. La deuxième technique pour sortir de ce problème, c'est le fait de créer des coalitions gouvernementales entre des partis politiques qui ne s'apprécient pas les uns les autres, mais qui se mettent quand même d'accord sur un programme minimal d'action pour un gouvernement qui dure, disons, au moins jusqu'en 2027 et la présidentielle. Sait-on exactement quand on aura un nouveau Premier ministre? Y a-t-il une date fixe à respecter? Non, il n'y a pas de date fixe à respecter. La Constitution ne prévoit pas de délai pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. Premier ministre, combien ça coûte en moyenne de renouveler un gouvernement? Ça coûte rien de renouveler un gouvernement. C'est juste des gens qui changent de poste. Il n'y a pas de nouveauté, je veux dire, les bureaux sont déjà là. Les conseillers du nouveau ministre, eh ben, ce seront peut-être de nouveaux conseillers, il en gardera peut-être des anciens, mais c'est le même nombre de salaires et le même nombre de postes. Les agents de sécurité, bah, ils continuent à bosser pour le ministre suivant. Est-ce qu'il va encore toucher de l'argent et des avantages, François Bayrou? Alors, il n'y a pas de salaire à vie pour les anciens Premier ministre ou pour les anciens ministres, ça n'existe pas. C'est une légende. En revanche, les ministres qui quittent leur poste de mémoire continuent à toucher leurs indemnités pendant 3 mois après leur départ pour pas qu'ils se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Que va-t-il se passer avec le budget? Que se passe-t-il si on n'arrive pas à avoir un budget jusqu'à la fin de l'année? Alors, pour l'instant, on a un budget jusqu'au 31 décembre. L'enjeu, là, c'est de trouver un budget pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe si au 31 décembre, on n'a pas de budget? Il se passe la même chose que l'année dernière. Les députés votent ce qu'on appelle une loi d'exception qui permet de reconduire des crédits de l'année précédente de manière à continuer à faire tourner la machine. Et par contre, ça veut dire qu'il faut voter un budget rapidement au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. On a assez peu de temps et c'est une situation assez instable de se retrouver sans budget pendant trop longtemps. Maintenant que Bayrou est tombé, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de blocage le 10 septembre? Moi, je ne crois pas. Je pense que les personnes qui vont bloquer le 10 septembre sont des personnes qui sont en colère contre François Bayrou, certes, mais surtout contre Emmanuel Macron. C'est pas tant la personne de François Bayrou qui pose problème, c'est la politique qui est menée par le camp de François Bayrou, par Emmanuel Macron. Donc, à mon avis, il y aura des mobilisations le 10 septembre avec l'opération Bloquons tout et le 18 septembre avec la grève provoquée par l'intersyndicale.
Voilà. Alors moi, je tiens à dire que les gens qui sont pas foutus de repasser une chemise, je supporte pas. Je supporte pas. C'est un manque de respect total pour la grandeur de la France et des institutions de la République. Les mecs mal coiffés, mal rasés, là, ça me scie les nerfs. Heureusement, on va avoir Louis Sarkozy qui va devenir maire de Menton et qui va remettre un peu d'ordre dans cette vie politique. Voilà. Pas de cravate en plus. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est ni fait ni faire. Non, mais alors, blague à part, faut quand même savoir que, blague à part, je ne possède pas de fer à repasser et de planche à repasser. J'ai pas. J'avais dans mon ancien appart avec mon coloc, mais j'ai pas. J'ai plus. Du coup, bon, bah, pas avec, hein. Enfin, on fait sans, du coup. En gros, un premier ministre démissionnaire, il a un statut qui se rapproche d'un employé pendant son préavis de démission. Oui, c'est ça. Louis Sarkozy, il a passé toute sa vie à Menton, c'est bien l'enfant du pays. Ah là là. L'auto-parachutage. Non mais donc, merci Combini de m'avoir invité pour faire ce petit format qui est à la fois sur YouTube et sur...
J'ai rien compris.
Ah, ta gueule. Et sur Instagram aussi. Il y a une version Insta verticale qui a été faite aussi. Merci à Combini de m'avoir invité. J'ai rien compris. Bon, quand est-ce qu'il est nommé Premier ministre, Sébastien Lecornu, là? C'est ce soir? C'est demain? C'est quand? Nous, on attend, hein. Je sais pas. Moi, je suis sûr que c'est Lecornu. J'ai encore me trompé, mais je suis sûr que c'est Lecornu. Qu'est-ce qu'on dit dans les milieux autorisés? Parce que j'ai échangé des textos quand même avec des gens pour savoir et tout. On m'a susurré qu'on se dirigeait plutôt vers du Lecornu. Mais comme d'habitude, c'est des rumeurs de... c'est des rumeurs de remaniement. Personne n'en sait rien. Les gens, ils se font circuler des noms. Pas. Petit rappel de qui est Lecornu. Sébastien Lecornu, il est ministre des armées. C'est un proche d'Emmanuel Macron et il est au gouvernement depuis le début, depuis 2017. Sébastien Lecornu. Il est proche de Gérald Darmanin aussi. C'est pas un ministre très médiatique. C'est pas une star de plateau télé. C'est pas une personnalité de premier plan. Mais c'est un fidèle compétent, proche du président. Voilà. Dans les milieux de défense, il est apprécié. Ça, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on appelle un proche? Un membre de son... Non, un proche, c'est une personne qui est proche du président. C'est une personne qui conseille le président, qui rencontre le président régulièrement, que le président apprécie. Un proche, quoi. Est-ce que c'est possible que LFI et le PS se mettent dessus pour aider le PS à accéder au pouvoir afin que derrière le PS ramène LFI au pouvoir avec eux? Ça va devenir ma théorie du complot préférée. Donc que LFI serait en train de faire exprès de taper sur le PS pour faciliter l'arrivée du PS au pouvoir de manière à ce que, patatras, le PS... à la surprise générale, appelle LFI à venir au pouvoir avec eux. j'aime bien. J'aime bien l'écriture. Il y a quelque chose. Galaxy Brain. J'en sais rien. Premier ministre, ce soir ou pas, je sais pas, on n'a pas d'infos. Est-ce que Macron, est-ce que l'Élysée va dégainer un sobre communiqué de presse pour nous annoncer le nom du nouveau Premier ministre? Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? Peut-être que l'Élysée va attendre jeudi de manière à ce que la nomination du Premier ministre, enfin à ce que la mobilisation du 10 septembre ne se fasse pas contre un Premier ministre qui vient d'être nommé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas clair. Si Macron nomme aujourd'hui, là, le 9, un Premier ministre, il y a des chances que demain, dans les manifs, on entende des gens se plaindre de ce nouveau Premier ministre. Et c'est pas une très bonne manière de commencer. Donc peut-être qu'il préfère attendre le lendemain. Ou alors, deuxième strat, il préfère attendre carrément demain, le 10, pour nommer le nouveau Premier ministre, en plein après-midi, pour complètement parasiter la couverture médiatique de la mobilisation du 10 septembre. En vrai, ce serait smart. Le troll, bah... À la guerre comme à la guerre. Hein. Donc on aura les chaînes d'infos en continu qui seront en boucle toute l'après-midi sur le nouveau Premier ministre, plutôt que de parler de la mobilisation du 10 septembre. Bon, ils feront les deux. Et bim, Cazeneuve. Quand soudain, le retour de Cazeneuve. Pour Amadou et les socialistes, tu parles. Démissionnaire, François Bayrou a-t-il le droit de prendre des décisions de type décret? Ouais. Pourquoi tu penses qu'il n'y a aucune chance que ce soit quelqu'un du NFP ou du moins du centre-gauche? Bah, je commençais à y croire le week-end dernier. Le week-end dernier, je commençais à croire à l'hypothèse de la nomination d'un socialiste ou d'un écologiste, mais plutôt d'un socialiste Premier ministre, avec un accord de coalition ou à minima un accord de non-censure avec le Bloc central, avec une partie du Bloc central. J'ai arrêté d'y croire hier quand j'ai entendu les discours de politique générale, enfin le débat de politique générale et les discours des députés du Bloc central. Et j'ai encore plus arrêté d'y croire aujourd'hui quand j'ai appris que il semblerait, à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que les socialistes et les écologistes soient en train de se faire ghoster par l'Élysée. Apparemment, l'Élysée n'a même pas daigné téléphoner aux socialistes en leur disant rencontrons-nous, discutons. Non. Donc, a priori, ils vont finir la queue entre les jambes, les socialistes. Qu'est-ce que tu penses de Yael Braun-Pivet en tant que Premier ministre? Alors, j'y crois pas du tout, notamment parce que les relations entre Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron sont très mauvaises, depuis la dissolution aussi. Oh, même avant d'ailleurs. Il avait pas soutenu Yael Braun-Pivet pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Enfin, bref. Non, puis surtout, je pense que Yael Braun-Pivet. Mettez-vous à la place de Yael Braun-Pivet quand même. Yael Braun-Pivet, elle a parfaitement conscience que s'il y a une dissolution demain matin, elle n'est plus présidente de l'Assemblée nationale, c'est terminé, hein. Yael Braun-Pivet, elle a réussi à sauver son siège en juillet 2024. Elle aura tenu un an. Là, il y a Bayrou qui saute. Yael Braun-Pivet, s'il y a une dissolution, elle dégage. Donc, au point où elle en est, elle essaye d'exister médiatiquement pour se rappeler au bon souvenir de l'Élysée et de Matignon pour essayer de gratter une place dans un gouvernement. Qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse de Sarkozy comme Premier ministre? Non. Non, Sarkozy. Sarkozy, il fait pas l'unanimité au sein des macronistes. Et les républicains, ils sont qu'une quarantaine, donc non. Et de Villepin, pareil, de Villepin, pareil. De Villepin, il représente personne. De Villepin, c'est une personnalité qui a eu des responsabilités politiques exécutives par le passé, il y a 20 ans, et qui aujourd'hui revient médiatiquement et qui marque des points auprès de l'opinion publique. Dominique de Villepin, il n'a qu'une seule vocation, c'est être candidat à l'élection présidentielle, pas Premier ministre. Est-ce que notre salut ne viendrait pas de la nomination de Philippe Poutou? Philippe Poutou n'a même pas été foutu d'être élu lui-même. Je veux dire, il commence à compter le nombre de députés qu'il soutient, il y en a très exactement zéro. C'est chaud pour gouverner quand même. Jean Massier, Premier ministre. Non, mais moi, j'ai déjà dit que je pouvais pas. Parce que... Ou alors à mi-temps. Parce que je dois streamer, moi. Moi, mon métier, c'est streamer. Faudrait voir comment on organise l'agenda, mais... Mais c'est galère. Ça part pas gagnant. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un contre son gré? Non. Peut pas forcer quelqu'un à devenir Premier ministre. C'est difficile aujourd'hui d'accepter la politique d'aujourd'hui, que ce soit de gauche ou de droite. Moi, je n'aime aucun camp. T'es pas le seul, t'es pas le seul. Le sentiment de rejet de la politique, de colère de la politique, c'est quelque chose qui est très répandu. Mais par contre, enfin, je sais pas. Il y en a qui trouvent, moi j'ai vu des commentaires, que ce soit dans mon chat ou sur YouTube ou Insta, etc. Il y a des gens qui disaient que le spectacle d'hier était un spectacle navrant. Je suis pas tout à fait d'accord en fait. Je vois pas ce qu'il y a de navrant. Je veux dire, ça peut être navrant la politique quand il y a des politiques qui trichent par exemple, quand il y a des mensonges, des trucs comme ça et tout. Mais quand c'est un Premier ministre qui soumet son gouvernement à un vote de confiance. C'est pas navrant, c'est la vie parlementaire, c'est la démocratie parlementaire, c'est pas. Il n'y a rien de navrant dans le fait de se soumettre à un vote de l'Assemblée. Après, l'Assemblée, elle prend ses décisions. L'Assemblée, elle s'engueule, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas de la faute des politiques si les Français sont pas foutus de donner une majorité à qui que ce soit. Les gens sont, enfin, les Français sont divisés, ça c'est vrai. Il y a une vraie division, il y a une tripolarisation du paysage politique, etc. Le problème de notre politique, c'est que les camps se combattent plus entre eux qu'ils combattent les idées des autres. Chaque camp va instantanément rejeter toute proposition du camp opposé juste parce que ça vient d'eux. Bah non, pas tous les camps. Enfin, certains camps peut-être. Mais là, regardez, en ce moment, il y a justement, vous devriez être content. Il y a des négociations entre le Parti socialiste et les macronistes dans le but de trouver un compromis pour faire un gouvernement. Les aficionados de la discussion. Vous devriez être plutôt satisfait de cette perspective-là. Alors, c'est sûr, c'est une perspective qui ne va pas plaire aux autres. Ceux qui, au contraire, ne veulent pas entendre parler de compromis, qui ne veulent appliquer que leurs propres idées et aucune autre, etc. Et puis, par ailleurs, moi, j'en veux pas aux politiques d'avoir des lignes rouges, hein. Je suis assez dubitatif sur un monde politique où tout le monde serait gentil, tout le monde s'assiérait en rond, tout le monde discuterait poliment, calmement, l'air de rien, comme si tout était acceptable du point de vue de tout le monde. Ça va être beau la fête de l'UMA. Ça va être trop bien la fête de l'UMA. Venez à la fête de l'UMA, chers amis, ce week-end. Il y aura Backseat le samedi à partir de 17h, 17h30, je ne sais plus. Point d'exclamation UMA dans le chat pour vous pouvoir prendre un pass 3 jours au festival avec une promo Backseat. Ça vous coûtera moins cher de venir au festival grâce à Backseat. Et l'autre information que je vous donne aujourd'hui, parce que je n'avais pas le lien hier, c'est qu'il y a un abonnement à l'UMA. Le mets dans le chat. Il y a un abonnement à l'UMA pour 1 euro par mois grâce à Backseat. Regardez-moi ce site internet de toute beauté. Avec une citation de Jean Massier. C'est le meilleur plan pour s'abonner à l'UMA. Offre spéciale Backseat. Vous vous abonnez, vous vous connectez, tout ça, tout ça. Voilà. C'est qui le monsieur en photo? C'est moi. C'est pas la peine de m'envoyer des mails à cette adresse-là, c'est une adresse poubelle. Donc venez. Abonnez-vous à l'UMA. Est-ce que ce serait pas l'occasion de mettre à l'épreuve le RN, qu'il se vautre et que ça calme pour les que ça les calme pour les présidentielles? C'est exactement ce que s'est dit Hindenburg en 1933 quand il a mis Hitler au pouvoir. Très très bonne strat ça. Je le dis hein, pour ceux qui seraient tentés, mettre l'extrême droite au pouvoir juste pour voir. C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon une idée de merde. Voilà. Mais merci d'y avoir pensé. La réponse est non. Non, non, faut pas donner le pouvoir à l'extrême droite. Hein. C'est le genre de truc à pas faire. Enfin, Après, normalement, vous avez eu l'occasion d'ouvrir des livres d'histoire quand vous étiez au collège, au lycée, peut-être à l'université, je sais pas. Normalement, c'était écrit dedans, ça. C'est le genre de truc en général, ça marque un peu. Non seulement faut pas donner le pouvoir à l'extrême droite, mais il faut se battre contre. Faut tout faire pour éviter que. Tu penses vraiment qu'on peut y échapper? J'en sais rien, mais je me battrai contre. C'est quoi la réponse? C'est-à-dire que si jamais, qu'est-ce que tu veux du défaitisme de ma part? C'est-à-dire sous prétexte que j'estime ou que j'estimerais que c'est inéluctable que l'extrême droite arrive un jour au pouvoir, j'arrête de me battre? Je baisse les bras? Ah bah non, 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 carrément pas, non. Je vais pas te mentir, je sais plus qui, quoi ni comment faire. I am lost. En commençant par voter, c'est un bon début. Voter aux deux tours pour faire barrage en fonction des candidats qui sont les mieux placés. Comme disait mon ami Usul, pour ceux qui connaissent, il avait dit le vote, c'est le geste antifasciste le plus facile à faire. Alors vraiment, celui-là, il n'est pas compliqué. Hein. Ça prend 1 heure de son temps à tout péter. Une fois tous les 1 an et demi. Mais le barrage, c'est pas ce qui nous a mis dans la position actuelle. C'est-à-dire la position dans laquelle le RN n'est pas au pouvoir, si. Si, si. J'ai un peu de mal à faire barrage, j'aime trop la démocratie pour mettre dans l'urne un bulletin de quelqu'un dont je déteste profondément les idées. Bah, si c'est trop dur pour toi de mettre un bulletin dans une boîte, pense aux combattants dans le maquis qui se réunissaient entre gaullistes et communistes et qui se battaient, qui risquaient leur vie les uns pour les autres. En termes de niveau d'antifascisme, tu vois. Enfin, des fois, je pense à ça. Je pense aux maquisards, je pense aux lycéens. Il y a quand même des lycéens. Il y a des mecs de 17 ans qui ont risqué leur vie, dont certains sont morts, ont été fusillés. Il y a des gamins de 17 ans qui ont pris des fusils et qui sont allés vivre dans le maquis par antifascisme. Car c'est autre. Enfin, en termes d'engagement, c'est autre chose que foutre un putain de bulletin dans une urne une fois toutes les 2 élections, quoi. Mais bon, si c'est trop dur pour vous, le faites pas. Les anarchistes, les communistes et tous les républicains contre Franco en 36. Ah bah sur la guerre d'Espagne, oui, la guerre civile espagnole, ça aussi. Là aussi, front commun contre le fascisme de la part de gens qui ne s'entendaient pas du tout. Enfin, je veux dire, un républicain espagnol et un anarchiste espagnol, politiquement, c'est pas des potes. Hein. Mais face à Franco. Ceux qui sont allés au maquis l'ont fait par nationalisme. Pour leur patrie, pour la France, ne réécris pas l'histoire pour les sujets aussi graves. T'étais pas là pour la panthéonisation de Michak Manouchian ? T'étais où ? On t'a pas vu ? Bizarre, ça. Bah, enfin... Je pense que certains dans le chat n'envisagent pas complètement le péril que représente l'extrême droite et ce que signifie leur donner le pouvoir. Non, parce qu'en plus, tu as une idée aussi très délégataire que l'extrême droite n'est un danger que pour les autres. Pas pour soi. Ah, je veux dire, si je prends ma petite gueule à moi, là, bon, à part le fait que je suis ouvertement opposé à l'extrême droite, ce qui pourrait m'attirer des ennuis le jour J, je suis un homme blanc, j'habite à Paris. Enfin, je veux dire, moi, ça va aller. Ça, enfin, je veux dire, c'est pas contre moi que ça va poser le plus de problèmes, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il y a des personnes, par contre, qui ont un besoin vital de services publics essentiels, d'une aide, de l'assurance, de l'AME, de la sécurité sociale. Et c'est ces gens-là qui vont pâtir de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. C'est pas moi. Donc c'est aussi une question de est-ce qu'on est là pour se battre pour sa gueule ou est-ce qu'on se bat pour autre chose? Mais ce qui est d'ailleurs est une question assez profonde de l'engagement politique, des dynamiques de vote, pour qui est-ce qu'on vote et pourquoi est-ce qu'on vote pour eux? Est-ce que le candidat pour lequel je vote, c'est le candidat qui va m'assurer à moi personnellement les meilleures conditions d'existence? Dans mon cas personnel à moi, ou est-ce que je me bats pour quelque chose de plus collectif? Et ça, pour le coup, j'ai pas la réponse à donner. Genre, chacun voit midi à sa porte, et vous faites ce que vous voulez. En tant que journaliste, tu as beaucoup à perdre si l'extrême droite prend le pouvoir. Je ne suis pas journaliste. On peut commencer à faire la liste des collabos de droite et du centre. La vraie difficulté, c'est avec qui tu seras prêt à t'associer le jour où il faudra faire des associations pour lutter contre l'extrême droite. On verra, hein. C'est quand qu'on a un nouveau Premier ministre? Je sais pas, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain. Moi, j'ai dit tout à l'heure, mon call, c'est que ce sera pas ce soir. Ce sera soit demain dans la journée, pour pirater le narratif médiatique de la journée du 10 septembre. Soit jeudi... Soit jeudi. Pourquoi on ne fait pas un système de vote où chaque citoyen trie par ordre de préférence chaque candidat? Il n'y a pas plus démocratique. Le jugement majoritaire ou le scrutin préférentiel, oui, ça c'est des initiatives qui existent d'associatifs et de responsables politiques qui promeuvent des alternatives en termes de système de vote. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système de vote, hein, je vous rappelle, il n'y a que des choix qu'on fait et des règles qu'on applique. Les opposants à ces types de votes alternatifs estiment que la plupart du temps, notamment quand tu fais des tris à la meilleure moyenne, c'est que ça choisit les candidats les plus moyens. C'est par exemple ce qui était le cas pour le scrutin de Condorcet. En 2007, on l'appelait le scrutin Bayrou. Pourquoi ? Parce que François Bayrou ne s'est pas qualifié au second tour de l'élection présidentielle en 2007, mais les sondages ont montré que si on avait fait l'élection au scrutin de Condorcet, c'était Bayrou qui était au second tour dans tous les cas. Même mieux que c'était Bayrou qui gagnait dans tous les cas. Donc à l'époque, on l'appelait le scrutin Bayrou. Si c'est autre truc. T'en penses quoi de Nicolas Sarkozy qui a double RN? C'est curieux, enfin c'est curieux, c'est quand on connaît l'histoire politique de Nicolas Sarkozy, le fait qu'il adoube comme ça le Rassemblement National, mais je pense comme Patrick Cohen qu'il faut écouter Nicolas Sarkozy parce qu'il a une parole qui est quand même assez libre par rapport à son ancien parti Les Républicains, et il peut se permettre de dire des choses un peu plus profondes que pensent sans doute un certain nombre d'électeurs de droite. Et ce qu'on appelait le cordon sanitaire par le passé a plutôt disparu ces dernières années. Le cordon sanitaire, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, bah tiens, on parlait tout à l'heure de la résistance. Il y en a qui parlaient disaient que les résistants étaient des nationalistes, etc. Non. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite qui rendait absolument impossible le fait de créer des ponts entre deux camps qui étaient radicalement opposés. Merci Flonflon pour ton raid. Des bisous. Merci les raideurs de Flonflon, bienvenue à vous. Donc, pas d'accord possible entre les héritiers de la résistance, du gaullisme, et les héritiers de la collaboration et de Vichy. Et c'était ça le cordon sanitaire qui scindait en deux la droite et l'extrême droite et qui rendait impossible le fait de créer des accords, des alliances, des trucs comme ça. Il est même arrivé, pour que vous vous rendiez compte de ce dont on parle, que dans les années 80-90, il y ait des candidats de droite qui se retire au second tour au profit d'un candidat communiste pour empêcher l'extrême droite de gagner la circonscription. C'est déjà arrivé. C'était ça, le cordon sanitaire. C'était le réflexe pavlovien de « on est là pour défendre la République, le front républicain, on défend la République, c'est plus important que tout, c'est plus important que les partis, etc. » Donc voilà. Bon, bah, ce temps-là est révolu. Il n'y a pas encore formellement d'accord entre la droite et l'extrême droite dans les régions, dans les départements, dans les villes, etc. Mais on verra plus tard, dans les mois qui viennent, à l'occasion des élections municipales. Je vous invite à rester attentif aux alliances qui pourraient exister dans certaines mairies entre la droite et l'extrême droite. Ce serait un signe de plus que ce cordon sanitaire continue à s'effilocher, à se grignoter et à disparaître petit à petit. Il faut dire aussi que l'électorat de droite et l'électorat d'extrême droite sont assez proches aujourd'hui. En termes d'idées, en termes de pensée, en termes de priorité, en termes d'obsession, ça tourne beaucoup autour de l'insécurité, de l'immigration. Moi, je me souviens d'une époque, vous n'avez peut-être pas connu cette époque-là, mais moi, j'ai grandi dans un monde politique où la droite, toute une partie de la droite, notamment la droite sarkozienne, c'était une droite européenne. C'était une droite qui parlait d'économie, qui parlait de business, qui parlait de pouvoir d'achat aussi. Mais y avait toute une fibre, et on retrouve bien là la fusion entre le RPR et l'UDF dans l'UMP, où tu avais toute une fibre européenne très novatrice, très moderne, très progressiste aussi, d'une partie de la droite. Il y avait des personnes comme Roselyne Bachelot, par exemple, qui était ministre. Roselyne Bachelot, c'est pas l'extrême droite, pas du tout. Il y avait NKM aussi. Elle a écrit un bouquin contre Marine Le Pen, NKM. Donc, vous voyez, c'est toute une autre époque, c'est toute une autre droite qui, aujourd'hui, a disparu des Républicains pour se retrouver dans le macronisme. Et vous retrouvez, en réalité, entre les macronistes et les Républicains, les deux familles historiques de la droite française, les conservateurs et les européens. Je schématise. Les libéraux. Donc, c'est tout le paradoxe de Nicolas Sarkozy qui a été le champion de cette famille de la droite, mais qui tout en même temps en 2006-2007, il a fait une campagne électorale pour l'Élysée qui se basait en grande partie sur la dénonciation du lien entre immigration et insécurité. C'est Nicolas Sarkozy le premier qui a franchi le Rubicon en allant draguer ouvertement l'électorat du Rassemblement National sur ses propres terres. À l'époque, on l'appelait le Front National. Donc voilà quoi. Bougez pas. Le Karcher, ouais, Karcher, Rakai, etc., machin, tout ça, toute cette litanie-là, pour ceux qui ont connu. C'était en 2006, c'était il y a 10 ans, putain, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Waouh! Moi, c'était mes débuts en politique. Non, mes débuts en politique, c'était 2005, le TCE. Et ensuite, les émeutes dans les banlieues, etc. La création du ministère de l'Identité nationale avec Brice Hortefeux. Oui, je m'en souviens très bien. Donc, c'est ces années-là, quoi. Le TCE, c'était le traité constitutionnel européen. C'était la constitution européenne en 2005. T'as un avis sur l'affaire Cohen, Legrand, Dati? Non, mais je soutiens Thomas Legrand, évidemment. Je soutiens Thomas dans cette épreuve. Je trouve ça lamentable de la part de Radio France de l'avoir exfiltré. Et évidemment, mon métier à moi consiste à prendre des cafés avec des politiques. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et je continuerai à le faire. Et je pense que le vrai danger dans cette histoire, c'est Rachida Dati, qui est vraiment la Trump à la française, nouvelle génération, quoi. Ah oui, les fameux journalistes neutres. Alors, il y en a plein, je vois dans les commentaires, etc., autour de cette histoire de Thomas Legrand et tout, qui savent pas ce que c'est qu'un éditorialiste. Je trouve ça un peu inquiétant. Vous avez appris ça à l'école, au lycée, en cours d'éducation aux médias, éducation, lisez les journaux, etc. On vous a appris ce que c'était un éditorialiste ou vraiment c'est un truc nouveau jamais? Non? Non? D'accord, absolument pas. D'accord. Eh bien donc d'où la confusion. Non, mais ça explique effectivement. Un éditorialiste, ça peut être un journaliste ou ça peut être quelqu'un qui n'a pas statutairement la fonction de journaliste. C'est une personne qui est payée pour donner son avis dans les pages du journal. Un éditorial, c'est un point de vue, c'est un angle qui est pris, notamment un angle politique. C'est ça un édito, notamment un édito politique. Les éditorialistes sont des gens qui ne sont pas neutres parce que personne n'est neutre et ne cherchent même pas à l'être. C'est même leur métier, précisément, que de donner leur opinion dans les pages du journal. Voilà, c'est ça un éditorialiste. Comme Thomas Legrand, comme Jonathan Boucher-Petersen, Françoise Fressoz pour Le Monde, etc., etc. Donc voilà, maintenant vous savez. Cohen, il est éditorialiste. Bien sûr, Patrick Cohen, il fait l'édito politique sur C'est à vous sur France 5 et sur France Inter. Il a toujours l'édito politique dans la matinale. Je sais pas, j'écoute plus. Enfin, j'ai jamais écouté en fait. Ouais, il fait toujours la matinale. Ok, d'accord. Donc voilà, je vous le dis, si un jour vous croisez dans un café un journaliste qui est en train de prendre un café avec un responsable politique, il est en train de faire son travail. C'est littéralement le métier du journaliste, notamment de journaliste politique, que de passer du temps à échanger à bâton rompu avec des politiques de tous les camps. Sur tout, sur rien. C'est mon métier à moi aussi, hein, d'ailleurs. C'est... je suis pas journaliste, mais je fais le même métier. Échanger des textos, échanger des DM, etc. Faire le point, obtenir des infos. C'est un métier. Avec quelle politique as-tu les échanges les plus riches? Tous. Non, je sais pas, j'ai pas de hiérarchie. Tu définis comment ton métier? Moi, je suis streamer. Je suis vulgarisateur politique. Et je vis grâce à vos abonnements. Merci pour vos abonnements d'ailleurs. Merci Utopie, merci U-Turn. Zepidou, Katpibara, Zeporks, Laladila, Hibou Rouge, Gagou, Jeff, Rictus, Clover, Manubiwan, Spalekak, Luevana, Susano, Le Gabien. Merci, merci beaucoup. Merci Loulou. Merci Julie. Est-ce que tu as rencontré des politiques qui étaient vraiment drôles en privé, mais qu'on ne soupçonnerait pas? Non, je crois pas. J'ai pas d'exemple de politique particulièrement drôle. T'as déjà parlé avec Macron? J'ai jamais parlé avec Macron, non. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron. Putain, pourtant, j'ai des questions à lui poser. Hein. J'aimerais bien. Non, j'ai rencontré une fois, on a fait une table ronde. On a fait une table ronde à l'Assemblée nationale avec Jean-François Copé. Avec Jean-François Copé, et je voulais le voir après, on s'est dit, ouais, faudrait qu'on prenne un café à l'occasion, et on n'a jamais donné suite, on n'a jamais, c'est dommage, on a bien discuté avec Copé. Oui, pareil, c'est un vieux routier de la politique, il la connaît très très bien, il connaît toutes les arcanes, plein de trucs à raconter, et toujours dans les instances dirigeantes des Républicains d'ailleurs. Est-ce que tu fais une sorte de veille politique pour être toujours à jour? Et si oui, en quoi consiste cette veille? Ouais. Alors moi, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Ça a jamais été des médias, les médias traditionnels, c'est pas trop mon truc. Je lis la presse. Je lis tous les jours. Libération, Le Figaro, Le Monde, Mediapart. Et je fais une veille grâce à ça. Ça m'arrive de regarder France Info. Notamment pour avoir des réactions à chaud dans des moments un peu précis. Hier soir, j'ai regardé France Info avant de me coucher. Mais voilà. Et pas Luma. Si, bien sûr que si, Luma, évidemment, je lis Luma. Bien sûr. Et en radio, non, j'écoute pas la radio. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, est-ce qu'on a des nouvelles sur le front de la nomination du Premier ministre de la République? Moi, j'ai pas plus d'infos. Hein. J'ai pas plus d'infos, je scroll, hein, j'attends de voir si y a des news, mais non, je vous disais, à mon avis, ce sera pas pour ce soir, compte tenu de la mobilisation de demain. Est-ce que la mobilisation de demain va être un succès ou pas, d'ailleurs? Ça, c'est un peu la question qui est dans toutes les têtes. Est-ce que ça va jouer sur la nomination d'un Premier ministre, je ne pense pas. Merci JB. Merci, merci. Yaël Braun-Pivet à Matignon, moi j'y crois pas. Je pense qu'elle essaye de se placer parce qu'elle voit bien venir la fin de son mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Ma question véritable, c'est à quoi sert la mobilisation de demain? Quel est le but? Bah, c'est une mobilisation qui est née sur les réseaux sociaux et qui est née d'une critique du plan d'économie budgétaire porté par François Bayrou et annoncé en juillet. Ensuite, ça a été rejoint par la France Insoumise et c'est une contestation assez protéiforme du pouvoir en place au sens large. Donc ça s'applique à Macron, ça s'applique à François Bayrou évidemment, et même s'il s'est fait virer par l'Assemblée nationale 2 jours avant. Le gouvernement s'attend à des actions coup de poing, à des options, à des actions de piratage, de blocage, de débrayage. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a annoncé la mobilisation de 80 000, membres des forces de l'ordre partout en France. Il me semblait avoir compris que c'était plus né d'un mouvement à droite. Oui, si tu fais l'archéologie du mouvement, il a commencé dans des comptes sur les réseaux sociaux portés par des complotistes, des anti-vax, des fachos. Enfin, tout ça est une nébuleuse assez difficile à lire, hein. Il n'y a pas que des combats. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était pareil, hein. La naissance du mouvement des Gilets jaunes avec l'appel à manifester sur les premiers ronds-points. C'était porté par des souverainistes, des gens d'extrême droite. Il y en a eu d'ailleurs des gens d'extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes au début, au moment de l'Arc de Triomphe, etc. Après, ce qu'on a vu, je veux dire, le mouvement est né sur les réseaux sociaux, le mouvement du 10 septembre, il est né sur les réseaux sociaux et on a vu la gauche de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, appelé à rejoindre le mouvement, et la droite, l'extrême droite, Marine Le Pen, s'en départir, en disant à l'inverse que le Rassemblement national n'avait pas vocation à appeler à manifester, les blocages, etc. En plus, ils sont pris dans une tension, l'extrême droite, parce qu'ils ont, c'est quand même, ils ont quand même tout un délire autour de l'ordre, qui est quand même assez important. C'est le parti des policiers, du maintien de l'ordre, contre les casseurs, contre l'extrême gauche qui casse, etc. Donc, c'est difficile pour eux d'appeler à des manifestations dont les modalités d'action vont vers la violence, quoi. Les autres partis de gauche aussi ont soutenu, même le PS du bout du lèvre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas que la France Insoumise. La France Insoumise, ça a été les premiers à gauche à soutenir ouvertement le mouvement du 10 septembre. Puis, on suivi le Parti communiste, les écologistes et les socialistes. Les syndicalistes, ce sera pour le jeudi 18 septembre, il me semble. Il y a quelques syndicats qui ont appelé à des mouvements de grève dès demain, le 10 septembre, mais l'intersyndicale, elle, a appelé à une journée d'action le 18 septembre. Pourquoi Cazeneuve ne pourrait pas être une option? Parce qu'Olivier Faure a gagné le congrès du Parti socialiste. La ligne Cazeneuve, Delga, Hollande, etc., a perdu du terrain au sein même du Parti socialiste. J'ai du mal à imaginer Cazeneuve réussir à être un point de bascule entre un parti socialiste qui lui fait de plus en plus tourner le dos et les macronistes. La ligne de force, c'était pas d'être plus proche de la gauche que des macronistes. Si? Si, si. La ligne fort, c'est la ligne, historiquement, hein, c'est la ligne unioniste favorable à l'union avec les insoumis dans le cadre des élections législatives, comme il l'a fait à deux reprises avec la NUPES puis avec le NFP. Et en face, il y avait la ligne de Nicolas Mayer-Rossignol, avec plein d'autres, Karim Bouamram, Carole Delga, etc., qui, eux, par contre, étaient pour un rejet de la France insoumise. Mais qui ont accepté le NFP quand même. Ouais, du bout des lèvres, du bout des lèvres, parce que c'est la position du parti. Mais ils étaient contre le fait de faire cette alliance. C'est pas genre presque 50-50 l'élection de Faure. Non, c'est 54-46. De mémoire, hein, sur les résultats du congrès. C'était ça? 53? Pourquoi la ligne Faure a abandonné certaines des mesures du NFP? Bah parce que tout à l'heure, dans le chat, vous disiez que les politiques en France, ils font pas assez de compromis. Ben voilà. C'est ça un compromis. Un compromis, c'est accepter de transiger sur ses propres positions, de manière à trouver un accord qui permet d'avancer quand même dans la bonne direction. Le programme du NFP, c'était déjà un compromis. Oui, mais un compromis entre les forces de gauche. Qu'est-ce que la bonne décision? Ah ben ça, j'en sais rien, c'est une très bonne question que je te pose. C'est à vous de décider avec votre bulletin de vote ce qui, selon vous, est la bonne politique. Est-ce que le désaveu et la défaite démocratique des dernières législatives découragent les électeurs de gauche? Non, je pense pas. Non, non, non. Les électeurs de gauche continueront à être des électeurs de gauche aux prochaines élections, quoi qu'il se passe, hein. Pour ce que la gauche représente, de toute façon. Le bloc gauche, il représente combien de Français sur les autodéclarations? Quelle est la part des Français qui se réclament de la gauche? Crois que c'était 30%. La gauche selon qui? Selon eux-mêmes, quand tu demandes aux gens, est-ce que vous vous déclarez plutôt de gauche, de droite, du centre, machin, etc. T'as des sondages qui sont faits régulièrement comme ça sur les auto-positionnements. 44% selon l'IFOP? T'es sûr? C'est possible, c'est possible. Les macronistes se déclarent de gauche? Il y a des macronistes qui se déclarent de gauche, oui, il y en a. Après, le macronisme, c'était une offre, enfin j'en parle au passé pour 2017, mais c'était une offre de dépassement du clivage gauche-droite. Donc les macronistes se réclamaient ni de gauche ni de droite, ou plutôt à l'époque ils disaient et de gauche et de droite, à la recherche d'un compromis entre les deux camps, etc. Pas mal d'extrême droite qui ne s'assument pas aussi. La plupart des gens d'extrême droite refusent l'étiquette extrême droite. Marine Le Pen refuse d'être appelée d'extrême droite. Elle parle de droite patriote, elle parle de droite nationaliste, droite souverainiste. Elle a utilisé plusieurs mots à travers l'histoire. Même Zemmour refuse le terme d'extrême droite. Oui, Zemmour avait déclaré que Marine Le Pen était de gauche. Pour Zemmour, la gauche, ça commence à Marine Le Pen. Puis après, il y a tout le reste. C'est pour ça que je vous dis que ces histoires de positionnement politique, gauche-droite, le petit jeu des étiquettes, là, le jeu des boîtes, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas mon truc. Je trouve ça très très pauvre intellectuellement, je trouve que ça mène à rien et que tout ça c'est des conventions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, aucun problème. LFI adore dire que les partis de gauche ne sont pas de gauche. C'est normal, ça c'est positionnel. C'est une manière d'affirmer que soi-même on est de gauche. C'est ce qu'on appelle du virtue signaling sur les réseaux sociaux, vous connaissez ça. Faire remarquer aux autres que l'on est soi-même vertueux. Bon bah une manière de faire ça, c'est de renvoyer les autres dans leur corde. Mais c'est normal, pour le coup, c'est vieux comme le monde, hein. De toute façon, quand on se retourne, ça change tout. Le PS de Hollande a fait pas mal de choses de gauche sur le plan économique, il faut reconnaître. Non, a pas fait grand-chose de gauche sur le plan économique, il faut reconnaître. François Hollande a porté une politique de l'offre, a assumé une politique de l'offre, similaire à ce qui était porté à l'époque par ses voisins en Europe, notamment en Allemagne. Et il a tenté, enfin c'est l'expérience hollandienne de la social-démocratie européenne appliquée à la France, quoi. Dans une culture politique qui fait assez peu de cas de ce type d'aventure politique, quoi. l'hypothèse de la dissolution s'éloigne. Oui. Oui, oui, l'hypothèse de la dissolution est en train de s'éloigner assez clairement. Moi, je vois bien que Emmanuel Macron, en tout cas l'Élysée, a annoncé hier dans un communiqué que le président de la République prenait acte de la défiance du Premier ministre et qu'un nouveau Premier ministre serait nommé dans les tout prochains jours. Dès lors que l'Élysée annonce qu'un nouveau Premier ministre va être nommé, alors on peut rayer de la liste la perspective d'une dissolution rapide. Donc, l'Élysée, Macron va nommer un nouveau Premier ministre. Je suppose que ce sera un Premier ministre qui sera issu du Bloc central. Mais qu'est-ce que ce Premier ministre va faire et va réussir à faire d'ici à l'adoption d'un budget ? J'ai du mal à imaginer. Un Locornu se retrouverait pas dans la même situation que Bayrou. Bah si, justement, c'est ce que je dis. C'est que je suis d'accord avec toi. La perspective Locornu, moi... En fait, j'en ai rien à foutre du casting. J'ai rien à dire sur la personne de Sébastien Locornu. J'ai jamais rencontré. Il est très probablement très sympathique, parfaitement compétent. J'ai pas de problème avec ça. La question, c'est quels sont ses moyens d'action politique dans une assemblée qui vient de dégager François Bayrou sur un vote de confiance avec plus de 360 députés qui ont voté contre. Qu'est-ce que Sébastien Lecornu va réussir à négocier ? Est-ce que Sébastien Lecornu va réussir le pari improbable de trouver une coalition avec une partie de la gauche et un modus operandi qui fonctionne jusqu'en 2027 dans lequel chacun s'y retrouve ? C'est une vraie question. C'est la question des prochains mois. Et quand je dis les prochains mois, c'est les 2 ou 3 prochains mois. Quelle était la différence de proposition entre Barnier et Bayrou ? Barnier a tenté d'amadouer l'extrême droite. Barnier a tenté d'amadouer le Rassemblement national, d'appeler au respect de leurs électeurs et de leurs députés, de créer un dialogue, etc. Bon, finalement, il s'est fait rabrouer par l'extrême droite elle-même, Marine Le Pen et ses troupes, qui ont décidé de voter la censure en décembre au moment du budget. Et François Bayrou, de son côté, sa proposition d'entrée de jeu, c'était de reposer sur la table la question de la réforme des retraites via l'ouverture d'une négociation entre les partenaires sociaux qu'on a appelé le conclave et qui était une des demandes du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a accepté de ne pas censurer François Bayrou sur l'adoption d'un budget en janvier, en échange de quoi François Bayrou ouvrait une négociation entre les partenaires sociaux qui a duré plusieurs mois et qui remettait sur la table la question des retraites. Bon, il se trouve que par la suite, François Bayrou a torpillé le conclave avec des déclarations à l'emporte-pièce sur l'impossibilité du retour à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Donc François Bayrou a perdu les socialistes. Et ça a donné le résultat qu'on a vu hier. Merci Logique Rémi, merci Nacha Supernova, merci Aloha, merci Snoopsy pour vos abonnements. Combien de temps peut-on rester sans gouvernement ? Faut demander à nos amis belges. Et pour te répondre, en France, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de chrono dans la Constitution sur le temps que peut durer un gouvernement démissionnaire. Euh... Mais du coup, Macron pourrait juste ne pas nommer de Premier ministre et garder les démissionnaires. Non, il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une question de pouvoir juridique. Le pouvoir, d'ailleurs, c'est une question philosophique. Qu'est-ce que pouvoir? Est-ce que c'est avoir le droit ou est-ce que c'est être en capacité de... Le gouvernement de François Bayrou n'a plus de capacité d'action politique dès lors qu'il a été dégagé hier. Il a remis sa démission aujourd'hui, donc il a accepté son sort. Les ministres n'ont plus de pouvoir d'initiative. Tous les projets de loi, etc., tout ça s'est renvoyé aux calendes grecques. Donc voilà. Est-ce que tu as lu l'excellent article du Monde sur la passion et la fin du fait majoritaire? Non, non, je me le garde pour ce soir. Il est trop long pour que je le lise en stream. Mais c'est l'article d'Anne Chemin qui s'appelle L'impossible deuil de la majorité absolue pour le monde politique français. C'est celui-là dont tu parles? Sur le fait majoritaire? Je le lis ce soir. Du coup, comment ça se passe pour une destitution? Destitution d'Emmanuel Macron, du président de la République? Il faut un vote des deux tiers de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc sur 900 parlementaires, aujourd'hui, il y en a 70 qui soutiennent ça. Je te laisse faire le calcul. Faut pas trop y compter. Non, non, je vous invite à pas trop compter sur une destitution prochaine du président de la République. Non, ça n'arrivera pas. Législative anticipée, bah non, moi je vous dis la dissolution, je veux bien, hein, je veux bien faire preuve de bonne volonté, mais je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire à l'imminence d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je continue à penser que dans un deuxième temps, Macron sera peut-être contraint et forcé de dissoudre. Un président a-t-il déjà été destitué? À ma connaissance, non. Dans tous les cas, sauf démission de Macron, on est toujours bloqué. Où est l'intérêt? Non, parce qu'il y a la dissolution. Je veux dire, avant la destitution, avant la démission du président de la République, il y a une autre étape qui est la dissolution. Et après dissolution, je veux dire, si dissoudre, si c'est pour se retrouver avec la même assemblée, on aura l'air malin. Aujourd'hui, les sondages montrent que les Français sont toujours aussi divisés et que si on faisait une élection demain matin, il y aurait probablement le même résultat que l'année dernière. Les Français ne changent pas d'avis en un an. Ou alors, on change de mode de scrutin. Mais Je suis désolé, si on fait une proportionnelle, vous attendez pas à une majorité absolue écrasante à l'Assemblée nationale, hein. Il y aura des négociations, c'est sûr. Annonce imminente apparemment. Quoi? France Info dit annonce imminente? Moi, je vois rien. Info chat. Il m'envoie des textos, mes informateurs, ou pas? J'ai pas d'infos. LCI info. Excusez-moi, c'est extrêmement gênant ce moment où vous me regardez en train de chercher sur mon navigateur des infos fraîches et que je n'en trouve pas. LCI vient de confirmer l'imminence de l'annonce. Ah! À mon avis, vous dans le chat, vous l'aurez avant moi. Vous l'aurez avant moi. Alors, je n'ai pas les droits. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je ne diffuse pas la télévision sur mon stream parce que je n'ai pas les droits de diffusion de la télévision sur mon stream. Voilà. Quand on n'a pas les droits de diffusion, on ne diffuse pas. Même le son, même le service public. Oui, non, commencez pas à croire qu'il y a moyen de moyenner. Est-ce qu'on peut diffuser ton stream? Non, faut me demander l'autorisation. Non, bon, on va rester en stream, hein. On va rester en stream jusqu'à l'annonce, hein. On va débriefer ça ensemble. Je savais pas qu'il y avait des droits sur des allocutions du président de la République. Non, il n'y a pas de droits sur les allocutions du président de la République. Mais là, c'est pas de ça dont on parle de la télévision. On parle des programmes de LCI, France Info, etc. Mais il n'y a pas de droits d'auteur sur les allocutions du président de la République et sur les débats parlementaires. Et sur les discours prononcés à l'occasion des cérémonies militaires. Comme ça, vous le saurez. Et si tu payes, tu peux. Ouais, alors les enfants, vous êtes gentils, mais je ne sais pas si vous imaginez le montant des droits de diffusion télé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la masse de pognon dont on parle. Comment vous dire que j'ai pas les moyens? Ça m'est déjà arrivé de payer des droits de diffusion télé. Notamment pour les débats d'entre-deux tours pour les élections présidentielles. J'avais acheté les droits de diffusion de TF1 et de France 2. Ça m'avait coûté combien? À l'époque, il m'avait fait un tarif 1500 balles, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était 1500 balles, ouais. Pas cher, hein. Enfin, faut pas que je le dise, pardon. C'était vachement cher. C'était super cher. Putain, 1500 balles, vous vous rendez compte? Pour un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Pas chiche de demander des droits si une TV retransmet un extrait de Backseat. Alors il y a déjà des télés qui m'ont acheté des droits de diffusion de Backseat. Enfin, c'est arrivé qu'une fois. Et par contre, on a le droit de faire ce qu'on appelle une courte citation, sans payer de droit d'auteur. C'est une exception au droit d'auteur. Vous avez le droit de faire une courte citation d'une œuvre, mais attention, la citation doit être courte et doit se limiter à un usage précis, descriptif, informatif, etc. Tout ça est très encadré par le droit, droit d'auteur, tout ça. J'ai raté le nom, c'est annoncé. On est en train d'attendre une annonce par l'Élysée, via un communiqué de presse sans doute, du nom du nouveau Premier ministre. Comment ils définissent court ? C'est par rapport à la durée de l'œuvre. De l'œuvre en entier. Est-ce que c'est possible de faire un react complet d'un journal TV où c'est interdit ? Non, c'est interdit. Sauf si tu achètes les droits de diffusion du journal télé. Et bon courage pour payer. Hein. Parce que alors là, si tu crois que TF1 et France 2, ils vont te lâcher les droits de diff de leur plus grosse émission du jour. Même sur le service public. Oui, même sur le service public. Attention, sortez-vous du crâne. C'est pas parce que le service public c'est payé par de l'argent public que c'est gratos, que tout le monde fait ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Et qu'il y a... Non, non. Service public, ça coûte bonbon, ça coûte, c'est payant. Non, non. En tout cas, on a le droit de react à Question pour un champion, apparemment. Il y a peut-être des accords qui ont été trouvés entre les producteurs de Question pour un champion, enfin, surtout le diffuseur, et les streamers. Ça, c'est possible. Je vois plein de streamers faire des revues de presse. Ouais, les revues de presse sont une exception au droit d'auteur aussi. C'est légal. Même lire un article derrière un paywall. Ouais, même lire un article derrière un paywall. Dans le cadre de l'exercice d'une revue de presse, c'est autorisé. Ça fait partie de l'exercice de revue de presse. Top Gear aux The Event, ça passe pas non plus. Top Gear aux The Event, ça ne passe pas non plus. Même pour l'un des animateurs de l'émission, Sylvain Livre, qui n'a pas eu le droit de diffuser l'émission. Le droit lui a été refusé par les producteurs. Bon alors, c'est quand l'annonce ? Est-ce qu'il y a une allocution de Macron qui est prévue ce soir ou demain ? Non, il n'y a pas d'allocution de Macron qui est prévue. On attend un communiqué de presse, sans doute, ou alors une prise de parole du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Ça m'étonnerait. Parce que si c'est juste pour annoncer un nom, je ne vois pas l'intérêt. Et ben vous voyez, je suis surpris quand même. Je suis surpris que le Premier ministre soit annoncé ce soir. Je vous avais dit tout à l'heure que selon moi, le Premier ministre est annoncé soit demain après-midi, soit jeudi, par rapport au mouvement du 10 septembre. Ben en tout cas, ce que ça nous indique, c'est que l'Élysée, on n'a rien à foutre du mouvement du 10 septembre. Ça ne les impressionne pas plus que ça. Ils anticipent un flop. Ils disent, ça va finir, il va y avoir 100 000 pélos partout sur le territoire. Donc l'Élysée se dit, on peut tout à fait nommer un Premier ministre la veille. Un flop comme le The Event. Oui, voilà, c'est ça. Le même genre de flop que le The Event. Non, mais on attend. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On est dans l'attente. On est dans l'expectative. On transpire, on tremble. On attend l'annonce imminente du nom de Sébastien Lecornu... pardon, du nouveau Premier ministre, qu'on ne sait pas encore qui c'est, et qu'on se demande bien qui ça va être. Il est prévu pour quand le communiqué? C'est imminent, c'est imminent, c'est imminent. C'est annoncé comme imminent. Toutes les chaînes d'infos disent que c'est imminent. Putain, et là, c'est Olivier Faure. Pouah ! La surprise. Olivier Faure, Premier ministre, annonce immédiate qu'il n'aura pas recours au 49-3 et qu'il se soumettra à un vote de confiance de l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. C'est les écolos qui ont dit ça. Les écolos, ils ont dit, si on gouverne, on promet, on s'engage à ne pas avoir recours à un 49-3 et on se fait valider par un vote de confiance de l'Assemblée nationale. Le cornu à 75%. On en est à 75% de certitude sur le nom de Sébastien Lecornu. C'est qui Lecornu? C'est l'actuel ministre des Armées. Il est connu pour être un fidèle du chef de l'État, un proche d'Emmanuel Macron. Il est au gouvernement depuis 2017. Il a fait partie des remaniements successifs. C'est pas quelqu'un de très connu. Plutôt dans l'ombre, Sébastien Lecornu. C'est pas un ministre qui est fréquemment dans des interviews sur les plateaux télé, etc. Voilà. Considéré comme efficace, compétent. Voilà. Beau. Beau. Il est beau, c'est vrai, il est beau. Non, mais ouais, c'est un profil, ce qu'on appelle un profil plus technique. Je sais pas pourquoi je parle de lui, hein. Je parle de lui parce que vous me posez des questions sur lui, mais si ça se trouve, on va parler d'autre chose, hein. On a l'air con, hein. On va se retrouver avec Catherine Vautrin. Et on saura plus quoi dire. Moi j'attends. Hein. Attends, j'ai regardé sur LCI si le bandeau l'annonce. Putain, il y a la pub. Groupe TF1. On se coltine la pub. Hein. Dégage. Pour France Info, l'annonce est imminente. Pour France Info, on ne sait pas encore. On va voir qui c'est. Il est bien ce stream. Hein. Moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Vous m'êtes tout à fait sympathique pour ne rien vous cacher. On est là, on se fait chier. On est en train d'attendre une confirmation par l'Elysée. de la nomination d'un Premier ministre qui va tenir 3 mois. RTL a dit imminente. Ah, RTL a dit imminente. Donc, c'est confirmé pour LCI. C'est confirmé pour LCI, effectivement. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre. C'est l'annonce qui est faite sur le bandeau de la chaîne d'info du groupe TF1. Sébastien Lecornu est bel et bien le nouveau Premier ministre. C'est confirmé par le streamer Jean Massier. Si on vous demande sur d'autres chats, dans d'autres machins, vous dites « confirmé chez Jean Massier ». Voilà. Au point où j'en suis, de toute façon, ma crédibilité, elle est proche de zéro, donc vous pouvez y aller. Hein. Je confirme. Je confirme après LCI, ouais. BFM confirme. Ah bah si, BFM confirme, alors c'est bon. Il n'y a plus que France Info. Dis donc, France Info, là. Service public. Vous savez qu'on vous aime bien, nous. Il y a encore écrit annonce imminente sur France Info. Allez, France Info. Allez, allez. Allez, faut mettre à jour le bandeau, là. Faut assumer. Ils sont en pleine interview de Sébastien Chenu, on s'en fout. Non, non, mais les gars, prenez du retard, là. Confirmé par France Info. Moi, France Info, il y a encore écrit annonce imminente. Hein. Avec Sébastien Chenu qui parle. c'est pas grave. Moi, vous savez, je vous aime d'amour, France Info. Hein. Moi, j'ai été chroniqueur sur France Info pendant plusieurs années et tout. J'embrasse France Info, c'est les copains. J'ai été chroniqueur sur LCI aussi, dans 24 heures week-end, avec Amélie Carouer et Bénédicte Le Châtelier aussi. Enfin bref, pourquoi je vous parle de ça, j'en sais rien. Donc, nous avons bel et bien Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, issu de la Macronie, nommé au lendemain, quelques heures après la démission de François Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sébastien Lecornu n'a pas les moyens de gouverner ce pays. Son prédécesseur ne les avait pas. Et le prédécesseur de son prédécesseur ne les avait pas non plus. Voilà, Sébastien Lecornu, il a un problème. C'est qu'il a la même Assemblée nationale qu'hier. Elle n'a pas changé d'un iota. C'est les mêmes mecs, au même endroit. Qui se sont exprimés quand même assez clairement hier, et les marges de négociation sont très difficiles. La question qui va se poser dans les prochains jours, c'est est-ce que Sébastien Lecornu va entrer en négociation avec le Parti Socialiste dans le but d'élargir sa majorité et de trouver un consensus, un compromis acceptable. Je pense que les socialistes ne vont pas lâcher facilement, qui vont faire monter les enchères. On se dirige tout droit vers le même psychodrame que l'année dernière. Parce que de toute façon, il n'y a qu'avec les socialistes qu'on peut élargir la majorité. Mais je veux dire, pour avoir les socialistes, en fait, c'est bon, France Info a mis à jour son bandeau. Tout va bien. Bravo France Info. Je vous embrasse. Pour avoir les socialistes, ils vont être obligés de lâcher les Républicains. Je vois pas d'autre solution. Donc ils vont gagner 60 députés et encore, du bout des lèvres, et ils vont perdre le soutien des Républicains. C'est-à-dire que Bruno Retailleau va rejoindre l'opposition à droite. Honnêtement, en quoi nommer Lecornu est une bonne idée pour calmer les ardeurs du 10 et de la mobilisation ? Honnêtement, je pense que l'Élysée s'en branle du 10. Je pense que l'Élysée, ils n'ont pas peur de la mobilisation du 10. Que ce que se dit l'Élysée, c'est que ce qui va se passer demain, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont casser des voitures et allumer des incendies, que ça va faire monter la cote de popularité du gouvernement, et c'est tout ce qui va se passer. Le maintien de l'ordre, etc. Bruno Retailleau, les policiers et tout. Enfin, pourquoi mobiliser 80 000 policiers alors? Ben justement, pour qu'il y ait de la castagne. Ça les arrange? Pourquoi le cornu? Moi, je pense que le cornu, c'est le dernier des Mohicans. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui a recours à un proche, à un fidèle, parmi le dernier quartier de fidèles qui lui reste. Je pense que c'est l'une des dernières cartouches d'Emmanuel Macron, qu'après celle-là, il n'en aura pas d'autres. Et c'est pour ça que, selon moi, on se dirige vers une dissolution. Soit dans les mois qui viennent parce que le budget n'aura pas réussi à passer, sauf si le cornu réalise un miracle, en réussissant à sécuriser un accord avec la gauche, quoi. Une partie de la gauche. Va-t-il changer le PLF? PLF, il doit être transmis au Conseil d'État pour un avis juridique et au Haut Conseil aux finances publiques pour un avis technique. Et il doit être déposé le 7 octobre, je crois, à l'Assemblée nationale pour un début d'examen en commission des finances. Il y aura toujours moyen d'adopter des amendements. Le PLF, c'est le projet de loi de finances. C'est le nom technique du budget. Ministre des Armées nommé Premier ministre, il n'y a pas un message envoyé sur l'orientation budgétaire? Bah non, on savait déjà que le budget des armées allait augmenter. Ça, c'est des décisions qui ont déjà été prises. C'est pas nouveau. Il n'y a pas un délai pour le PLF vu qu'on vient de changer de gouvernement? Non. Ah non, il n'y a pas de délai. Le truc qui m'interroge quand même, c'est en termes de timing, c'est compliqué d'organiser une dissolution au mois de janvier, février, alors qu'au mois d'avril, on vote pour les élections municipales. Il y a un télescopage d'agenda électoral qui est assez compliqué à justifier. C'est pour ça que moi, mon hypothèse, mais visiblement je me suis planté, hein, mon hypothèse, c'était de dire que François Bayrou avait déclenché sa propre chute relativement tôt dans l'année, le 8 septembre, c'est très tôt, de manière à provoquer une dissolution rapide. C'est ce que je vous disais hier. Je sais pas, je suis dubitatif. Je sais pas quel espoir Emmanuel Macron fonde dans la personne de Sébastien Lecornu et dans sa capacité à se dépêtrer d'un budget dans la situation politique actuelle. Si ça se trouve, il va se faire censurer très vite. Bah, c'est le risque, hein, qu'une motion de censure soit déposée très rapidement contre Sébastien Lecornu Pas forcément, parce que si c'est une motion de censure qui est déposée par le Rassemblement national, elle ne sera pas votée par la gauche. Et si c'est une motion de censure qui est déposée par les insoumis, elle ne sera pas forcément votée par les socialistes. C'est pas la même chose de s'abstenir de censurer un gouvernement et de voter la confiance. C'est plus engageant de voter la confiance. Et c'est plus dur de faire adopter une motion de censure. Je sais pas, je continue à réfléchir, j'explore un petit peu le domaine du possible. Je me pose la question de ce qui va arriver. En fait, ce qui va se passer à partir de demain, c'est que je vais être pendu aux lèvres de Sébastien Lecornu. Parce que alors là, j'ai des questions. Là, j'ai des questions. Là, Sébastien Lecornu, il va falloir que tu m'expliques deux, trois trucs sur comment tu comptes t'y prendre. Quels arbitrages tu vas rendre pour t'en sortir après ce qui s'est passé avec Bayrou, quoi. Faut l'inviter dans Backseat. Je suis chaud de ouf. Les socialistes et les écologistes se sont fait cracher à la figure, ils avaient demandé audience. Les écologistes avaient demandé à être reçus à l'Élysée avant toute nomination, ils n'ont pas été entendus, effectivement. Marine Tondelier n'a pas été reçue à l'Élysée. Ça augure rien de bon pour la suite de Sébastien Lecornu, je suis d'accord avec toi. Attal complètement ignoré. Oui, mais Attal, il est en train de se rebeller contre Macron. Attal, il est en train de prendre son envol et de s'émanciper du macronisme. Alors, du macronisme, peut-être pas, mais d'Emmanuel Macron, c'est sûr. Il s'est même permis de donner un conseil à Emmanuel Macron. Je pense que Gabriel Attal, il est en train de sentir venir la fin du macronisme. Et la nécessité pour lui de commencer à exister par lui-même en dehors de son affiliation à Macron. Il ne devrait pas y avoir quelqu'un de proche de Macron qui parle à 20h. Sais, les proches de Macron, eux-mêmes, ils sont pas très bien au courant de ce qui est en train de se jouer entre Lecornu et Macron. Hein. Tout ça a été négocié aujourd'hui même. Dernière cartouche pour la Macronie. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Oh, Lecornu, c'est le dernier des derniers, quoi. Alors, je dis ça, mais Emmanuel Macron a déjà fait preuve d'ouverture par le passé, avec Michel Barnier notamment. Mais bon. Jean Castex me manque. Bah, Jean Castex, c'était aussi un choix différent d'Emmanuel Macron. C'était le choix d'un profil technique. Jean Castex, c'était le Premier ministre technicien. Une personnalité qui n'a pas vocation à devenir candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi Lecornu a accepté cette offre, sachant que ça va nuire à son image jusque-là irréprochable? Mais parce que ça dépend lesquels, mais les politiques, c'est pas des gens qui attendent la facilité avant de prendre des décisions et de se mouiller et de se mettre en danger. Le pouvoir ne vous échoit jamais de manière confortable et facile. C'est toujours dans des conditions difficiles. Et vous démerdez avec ce que vous avez, vous faites de votre mieux. Le cornu, c'est son tour. Le président de la République lui a dit « Je pense à vous pour devenir Premier ministre. » Et le cornu a répondu « C'est un honneur, Monsieur le Président. Je tâcherai d'être à la hauteur, Monsieur le Président. » Est-ce que le cornu a un profil intéressant ? J'en sais rien. Je suis pas très bon pour la psychologie des personnages, vous savez. J'en sais rien. Je l'ai jamais rencontré, Sébastien Lecornu. Je vous dis, il est connu pour être un proche d'Emmanuel Macron. Il fait partie des soutiens de la première heure. C'est un vrai macroniste. Et il a la réputation d'un ministre compétent, travailleur, bosseur, pas une star de plateau télé. Est-ce qu'on peut refuser d'être Premier ministre ? Bien sûr qu'on peut, il n'y a aucune obligation. On ne peut pas forcer quelqu'un à être Premier ministre s'il ne le veut pas. Mais en général, quand tu as passé ta vie à te battre pour tes idées, tu ne passes pas ton tour quand on te propose de les mettre en œuvre. Après, c'est vous qui voyez, ça dépend de vous. Hein, mais quand on donne ta chance, en général, tu es content. Il y aura le même socle commun où il va draguer le PS. Je pense. Enfin, moi, j'ai hâte d'entendre Sébastien Lecornu dans les prochains jours. Je pense qu'il a intérêt à tenter de draguer la gauche. Après, avec succès ou pas, on verra. Mais je pense que là, dos au mur, le socle commun n'a plus le choix. La gauche est incapable de s'entendre, comment la séduire ? Non, mais pas toute la gauche, ça tu peux pas. Pas toute la gauche, mais une partie de la gauche, notamment les socialistes, potentiellement les écologistes et peut-être même les communistes, pourrait arriver à la table des négociations et tenter de trouver un compromis. Pas sûr que Fabien Gay devienne son pote. Non, je suis d'accord avec toi. Ça va pas être simple. Est-ce qu'il a plus de sièges que Bayrou ? Non, il a le même nombre de sièges que Bayrou. En l'état actuel des choses, Sébastien Lecornu, je ne sais pas qui le soutient. Est-ce que les Républicains vont rester ? Parce que moi, si Sébastien Lecornu rentre en négociation ouverte avec la gauche, ou une partie de la gauche, ça ne m'étonnerait pas que les Républicains disent « Très bien, on arrête. On arrête. » Comme l'a très bien dit Bruno Retailleau, le but des Républicains, c'est d'empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir. Si la gauche commence à mettre un pied dans le pouvoir, même via un compromis, moi, je peux comprendre que les Républicains, ils disent ciao. Du coup, c'est reparti pour un 49-3 pour le budget. Pas forcément, le budget pourrait faire l'objet d'un vote. Un vote difficile, un vote à l'arraché. Mais le budget pourrait faire l'objet d'un vote si, par exemple, dans le cadre de la négociation entre les socialistes, les écologistes et Sébastien Lecornu, ils se mettaient d'accord sur le fait de sortir le 49-3 de la table. C'est quand le retour de Backseat ? C'est ce week-end, ce samedi, à partir de 17h30, Backseat en direct de la Fête de l'Humanité. On sera en partenariat avec Saïra, le talk show de l'UMA. On va faire un double talk show ensemble, Backseat Saïra, sur la scène de l'Agora. Soyez présents. Prenez votre passe 3 jours avec le point d'exclamation UMA dans le chat pour venir nous rejoindre à l'UMA. Vous avez un code promo. Enfin, vous avez une promotion Backseat. Et voilà, soyez là, ça va être cool. Macron se prive d'un accord avec le PS en nommant un Premier ministre macroniste sans les consulter. Je suis d'accord. C'est mal barré. C'est mal barré. J'essaye d'échafauder dans ma tête des scénarios d'alliance et de compromis sur un budget dans 2 mois entre le Cornu et la gauche, mais ça part mal. Ils ont tellement aucun caractère qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut d'eux. Ils auront tort de se priver. De quoi avec les socialistes ? Bah pour l'instant, les socialistes, ils ont tenu assez fermement sur leur position ces dernières semaines dans la perspective du vote de confiance. Un fidèle à Matignon, reprise des grands projets macroniens, si possible. Bah, si possible, c'est la bonne manière de finir ta phrase, parce que pour moi, Sébastien Lecornu n'a pas de moyens de gouverner. Il a pas plus de moyens que François Bayrou. Le Cornu risque d'avoir du mal à former une majorité avec le PS puisqu'il aura contre son budget LFI et RN et très probablement l'ensemble des LR. Oui, mais ça fait pas une majorité, ça. C'est beaucoup, mais ça fait pas une majorité. Si le Cornu réussit à sécuriser le vote des autres, ça peut passer. Ou alors le Cornu propose enfin la proportionnelle pour acheter une partie du PS. Pas seulement du PS, parce qu'il n'y a pas que le... Il n'y a pas que le PS qui est pour la proportionnelle, hein. Il y a les insoumis, il y a le MoDem, les écologistes. La proportionnelle, c'est la porte du RN? Non. Non, 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 pas nécessairement. Le Rassemblement national, il serait cornerisé à 30%. C'est beaucoup 30%, hein. Ça fait 200 députés. Un peu moins de 200. Mais c'est pas automatiquement une majorité absolue pour le RN. Si, ça dépend de la proportionnelle qu'on fait. Mais si on fait une proportionnelle intégrale à un tour, comme les européennes, on aurait le RN qui serait en grosse position de force à l'Assemblée, mais qui serait pas majoritaire. Est-ce que la proportionnelle, ça ne bloquerait pas encore plus que maintenant? Ah bah la proportionnelle, ça donnerait une chambre plurielle. Donc il faudrait des compromis et des négociations. Mais ça, c'est ce que veut la gauche, hein. Enfin, c'est ce que veut le MoDem aussi. Je sais plus si le RN, ils sont pour la proportionnelle ou pas. Je crois qu'ils l'avaient demandé. Dans la présidentielle en 2022. Ah oui, si, 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 il voulait une proportionnelle. Marine Le Pen voulait une proportionnelle avec prime majoritaire. Évidemment, elle n'est pas folle. Au midi à sa porte. Prime au vainqueur, exactement. Ouais. C'est quoi une prime majoritaire? C'est le fait que la liste arrivée en tête au premier tour des élections législatives ou au second tour bénéficie d'un boost en nombre de sièges de manière à assurer des majorités stables. C'est notamment ce qu'on a aux élections européennes. Tu as 25% de sièges qui sont acquis pour la liste arrivée en tête. C'est une déformation volontaire du résultat de manière à assurer les stabilités et les majorités stables. Comme Marine Le Pen et le Rassemblement national sont le premier parti de France, elle se rassure en se disant, enfin, elle réclame une prime majoritaire parce qu'elle est sûre d'arriver en tête. On a fait le point. Vous l'aurez appris en direct sur Twitch, la nomination de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, qui devient Premier ministre et qui va avoir du pain sur la planche, sa mère, dans les semaines qui viennent pour faire adopter un budget dans une assemblée qui vient de dégager François Bayrou sur des axes budgétaires. Incroyable. Il me reste à vous remercier, les copains, d'avoir été avec moi sur ce stream. Merci les abonnés. C'est grâce à vous que je peux bouffer. Ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve demain, après-demain. On continue. On continue à observer le domaine du possible dans une vie politique pleine de brouillard, finalement. Allez, je vous fais des bisous. Salut les copains, passez une bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao.